puits. Ils ouvrirent leurs trésors et offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. J'arrête ma lecture ici. Alors, ce récit, on le connaît. On a entendu parler des rois mages qui ont suivi l'étoile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le récit que j'ai lu, on n'a pas parlé des rois mages, on a parlé de savants. Et en fait, en écoutant bien, en lisant bien, on se rend compte que ce qu'on a en tête, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans la Bible. Qui sont ces mages? Déjà, on ne dit pas qu'ils s'appellent Melchior, Gaspard et Balthazar. On ne dit même pas qu'ils sont trois. Et on ne dit pas non plus qu'ils sont rois. En fait, on ne sait pas grand-chose de ces savants, de ces mages. Ils évoquent un pays lointain. Ils viennent d'Orient. Je crois que si l'évangéliste Matthieu ne nous dit pas grand-chose, c'est que le plus important concernant cette histoire, ça ne concerne pas les mages, ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, comment ils sont arrivés. Ce n'est pas eux qui ont la lumière. Je crois que le but de cette histoire, ce qu'elle nous enseigne, est ailleurs. Je crois que ce que ce récit vient faire, c'est mettre en contraste l'attitude des mages et l'attitude de l'autre personnage important de cette histoire, qui est Hérode. D'un côté, on a une attitude positive, enthousiaste, par rapport à la naissance miraculeuse de cet enfant. Et de l'autre, on a une attitude ambivalente. La Bible nous dit qu'il fut troublé. Mais si on lit un peu plus loin que ce qu'on a lu, on voit que cette attitude, elle est même violente et négative par rapport à cette naissance. Et quand on y réfléchit, c'est paradoxal. Parce que, il me semble, Hérode devrait être celui qui est le plus intéressé par cette naissance, en tout cas plus intéressé que les mages. Ça concerne son pays, c'est une promesse qui concerne son pays, son peuple. Et alors que des gens qui viennent de très loin sont venus pour cela, lui n'a même pas remarqué l'événement. Ceux qui étaient attentifs le remarquent, même s'ils sont aux extrémités de la terre. Lui, qui c'est le territoire dont il a la responsabilité, et il ne l'a pas remarqué. Et du coup, il est là, pris au dépourvu, il en sait moins qu'eux. Heureusement qu'il a avec lui des grands prêtres, des spécialistes de la loi, qui peuvent fouiller dans l'écriture et donner des renseignements. Il identifie le Christ, le Messie, celui qui doit venir. Et on voit bien là, et on le retrouve aussi dans d'autres écrits de cette époque, il y a une attente pour ce Messie, pour celui qui doit venir, pour celui qui doit apporter la libération. Alors on attendait la libération des Romains, mais il y a tellement de choses dont on était libéré. Donc quand il entend parler de ça, il fait le rapprochement et on fouille dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, pour trouver d'où il doit venir, de Bethléem. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé ce renseignement, Hérode cherche à être discret. C'est secrètement qu'il fait revenir les mages. Les mages, eux, ils en parlent ouvertement. Je pense qu'il y a un certain enthousiasme de ceux qui se sont mis en route. Hérode, il est discret, il en parle en secret. Et puis dernière chose, Hérode, il n'est pas pressé de se déranger. Il dit au mage, allez-y, hein, puis quand vous aurez vu, vous me direz, moi aussi j'irai. Alors que les mages, hein, ils se sont mis en route avec peu de choses. On voit le contraste entre les mages et Hérode. Alors, on sait que Hérode ne voulait pas que ce roi, ce nouveau roi, lui fasse de l'ombre. Hérode, c'est un personnage trouble. Il n'y a pas que Jésus qui lui a fait peur. Il a fait aussi tuer son épouse et certains de ses enfants parce qu'il avait peur qu'ils prennent trop de place. Et pour lui, un roi des Juifs, c'est de la concurrence. Ce n'est pas bon. Mais je remarque aussi que celui qui fait partie du peuple du roi qui vient de naître, qui lui doit allégeance, celui-ci rechigne à y aller, alors que ceux qui viennent de loin, ceux qui ne lui devaient rien, ce sont eux qui se sont mis en route pour aller vers lui. Les mages, ils ont vu un signe et ils ont voulu venir pour se prosterner devant ce roi. Dans l'Antiquité, les grands événements sont souvent associés à des mouvements de planètes. C'est quelque chose qui n'est pas trop dans notre culture, mais dans le récit de l'Antiquité, ça parle au lecteur de Matthieu. Et avec ce signe, ils se sont mis en route. Sans rien attendre de plus, dans une direction, ils ont identifié Israël. C'est intéressant de voir qu'ils ont identifié ce peuple et non pas juste un territoire. Hein, ce n'est pas une direction que pointe l'étoile, c'est un peuple. Et ils vont à la capitale se renseigner. Ils ne savent même pas où ils vont et où ils vont, mais ils y vont. Et ensuite, lorsqu'on leur montre la ville, ils se remettent en route. Et là, il y a ce truc, j'ai du mal à imaginer que l'étoile s'arrête et désigne un endroit. Déjà que j'ai du mal à me repérer avec les étoiles pour voir quelle direction, quel point cardinal, que l'étoile dise « c'est là, pas la maison d'à côté ni celle de l'autre côté, c'est celle-là ». Ça me paraît stupéfiant, mais c'est ce que nous dit le récit, c'est ce qu'ils reconnaissent avant même de voir la mère, l'enfant. On se dit que la crèche, on la connaît. Hein. Si on avait vu la crèche, on aurait adoré Jésus. Mais eux, ils n'ont même pas vu la crèche. Ils ont vu l'étoile, la maison, c'est là. Ils sont rentrés et ils se sont prosternés devant Jésus. Non seulement ils se sont prosternés, mais ils ont offert des cadeaux coûteux. Alors, je ne sais pas ce que pensent les jeunes parents des cadeaux qui ont été offerts. Aujourd'hui, on offre plutôt des vêtements, un nécessaire pour un sac de change. Les plus gros cadeaux offrent parfois des poussettes ou des choses comme ça. De l'or, de l'encens, de la myrrhe, ça ne se fait plus trop. Je ne pense pas qu'ils aient offert ce qui était le plus utile pour Jésus ou pour les parents, mais ils ont offert ce qui leur coûtait, ce qui leur semblait précieux. Et ils l'ont offert à cet enfant. Et je trouve le contraste saisissant entre les mages et Hérode. Et ça montre que Jésus a été rejeté par les siens, par le pays qui était le sien, le peuple qui était le sien, là où il est venu. Et il a été accueilli par ceux qui étaient le moins destiné à le faire, c'est eux qui l'ont accueilli avec le plus de révérence. Je trouve que ça fait écho à ce verset, de cette phrase de l'introduction de l'évangile de Jean. La lumière est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. On a donc un récit qui nous parle du contraste, contraste entre ceux qui devraient adorer Jésus et ceux qui le font réellement. Un récit qu'on aime lire à Noël pour se souvenir. Mais quelle application ? Qu'est-ce que ce récit nous enseigne et en quoi est-ce qu'il nous met en mouvement, nous, aujourd'hui ? Je crois que ce récit vient poser un modèle pour l'adoration, un modèle que nous pouvons suivre lorsqu'on veut adorer Jésus. Et on peut, en comparant le peu d'égards d'Hérode et ce qu'ont mis en place les mages, voir ce que nous pourrions aussi mettre en place. Déjà, il y a l'attitude. Les mages viennent pour se prosterner. Se prosterner, se mettre à genoux, un geste par lequel on montre la soumission. On montre que celui devant qui on se prosterne nous est supérieur. C'est quelque chose que nous faisons aussi, je le crois, lorsque nous chantons. Si on fait attention aux paroles des cantiques que nous chantons, on exprime combien nous croyons que Jésus nous est supérieur. Si nous faisons attention à ces paroles, nous voyons combien elles sont engageantes. Si nous faisons attention, est-ce que nous faisons vraiment attention ou est-ce que nous avons l'habitude, nous prenons l'habitude et nous n'écoutons plus réellement? Il y a un défi pour nous de venir et de louer avec une attitude renouvelée. Mais je vois que les mages vont aussi plus loin que l'attitude. Ils offrent aussi un cadeau coûteux. Et je crois que ça montre que leur attitude d'adoration n'est pas passagère. Quelque chose reste. Il reste un trou dans leur patrimoine, il reste ce trou de ce qu'ils ont donné. Mais il y a aussi autre chose dans leur adoration, je crois, c'est le temps qu'ils ont donné. Ils étaient dans un pays lointain, et ils se sont mis en route, ils ont laissé leurs affaires pour venir et pour se déplacer. Et le contraste est saisissant avec Hérode qui reste dans son palais et qui dit « Allez-y, j'irai plus tard ». Eux, ils ont pris le temps, ils y sont allés. Et ils y sont allés pourquoi ? C'est la quatrième chose qui me frappe, pour aller voir quelqu'un qui n'avait rien fait. Souvent, notre louange, elle se base sur la reconnaissance. Jésus a tellement fait pour nous quand il est mort à la croix. Nous pouvons nous tourner vers lui et le chanter en reconnaissance. Mais là, c'était un bébé qui n'avait rien fait. Ils ont reconnu qu'il était roi. Et ils ont voulu se soumettre simplement devant qui il était, reconnaissant qu'il leur était supérieur, même s'il n'avait rien fait pour eux. Une adoration réelle, dans l'attitude, qui déborde sur le côté matériel de la vie, sur notre organisation et notre temps, et qui est désintéressée. Voilà le modèle que viennent nous donner les mages. Et je crois que relire ce récit nous interpelle. Parce que au départ, on pourrait plus s'identifier aux mages qu'à Hérode. La plupart d'entre nous ne sont pas juifs, ne font pas partie de ce peuple proche de Jésus. La plupart d'entre nous venons de loin et sommes venus vers lui. Mais à force, nous connaissons Jésus, nous nous habituons à lui. Est-ce que nous avons la même adoration que d'autres qui ne le connaissent pas et le découvrent? Est-ce que nous gardons ce cœur bouillant ou est-ce que les gens qui connaissent moins Jésus ne nous challengent pas par leur empressement? Parfois, on regarde les nouveaux chrétiens qui sont tout feu, tout flamme, et on les regarde avec un petit sourire en disant que nous aussi, on a été comme ça et que certainement, ils vont se calmer et redevenir normaux. Quelle tristesse! On serait bien inspiré plutôt de vouloir être comme eux. Je crois que dans ce récit de la visite des mages, il y a une invitation à retrouver l'adoration dans l'attitude, dans la dimension matérielle, dans la dimension organisationnelle. L'adoration pour qui il est, simplement. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, pour moi, pour vous, que dans ce temps de l'Avent, alors que c'est bientôt Noël, au milieu de la fête, des cadeaux, du bruit, qu'au milieu de tout ça, on puisse percevoir l'étoile qui brille en silence et qui nous indique le roi est venu sur terre. Il a marché parmi nous. Saurons-nous le distinguer? Et surtout, saurons-nous avoir la bonne attitude d'adoration? Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier parce que tu as envoyé Jésus, parce qu'il a marché parmi nous, parce que nos frères qui nous ont précédés ont pu le voir, le côtoyer. Merci parce que sa venue a changé le cours de l'histoire et a changé nos vies. Mais Seigneur, j'aimerais te prier que nous sachions ne pas rester à la reconnaissance, mais que nous puissions profiter de ce que nous te connaissons, toi le grand Dieu, Père, Fils et Esprit, toi qui se révèles de façon si riche, toi que nous pouvons connaître dans toutes ses dimensions, toi qui nous offres une vie nouvelle, une vie abondante, que nous puissions nous réjouir simplement de marcher avec toi, de te connaître. Reçois notre adoration, Seigneur, aujourd'hui, qu'elle soit toujours au centre de nos vies, pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui s'est incarné pour nous rencontrer. Amen.
Merci Eric. Comme nous avons prié pour adorer, nous pouvons aussi prier pour intercéder. Et nous avons l'habitude de le faire en priant pour plusieurs familles de notre Église. Cette semaine, nous prions pour la famille Natwick, Blandine, Mathieu, Cassandre et Robin. Nous prions aussi pour Monique et Jean-Patrick Le Guéhennec. Et nous prions pour Camille Géraud. Et je vais prier en notre nom à tous. Seigneur, nous te prions pour les membres de notre Église, puisque nous formons un corps et nous avons plaisir à prendre soin les uns des autres. Nous te remercions pour la famille Natwick et nous te remercions avec eux pour la fidélité dont tu fais preuve à leur égard. Seigneur, merci de prendre soin d'eux, de répondre à leurs prières. Et nous voulons te demander de les accompagner dans la confiance qu'ils te font, de fortifier leur foi et de les bénir dans les projets professionnels et aussi familiaux qu'ils forment, Seigneur. Nous te remettons aussi Monique et Jean-Patrick, le Guéhennec, en ces temps de changement à la fois professionnel et personnel. Seigneur, je te prie de prendre soin d'eux, de les aider à s'accorder et qu'ils puissent poursuivre le chemin que tu traces pour eux. Nous te prions pour leur famille et qu'ils puissent continuer à être présents et à cultiver de belles relations avec leurs enfants et leurs petits-enfants malgré le confinement. Seigneur, merci pour la présence et l'engagement de Monique parmi nous. Et je te prie que tu l'accompagnes et que tu l'équipes dans ses différents services pour toi au sein de notre Église. Seigneur, nous te prions pour Camille et te demandons de l'accompagner dans ses études. Donne-lui la mémoire et l'intelligence dont elle a besoin. Et nous te prions pour que tu sois à ses côtés dans la préparation et le passage de ses examens en janvier. Nous te remercions pour le service qu'elle a pris en charge au feu. Et nous prions pour que tu lui donnes la sagesse et la joie dans ses engagements. Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous prions que le monde entier découvre vraiment le roi que tu es. Le roi qui est venu simplement comme un petit enfant. Nous prions que tu viennes habiter dans le cœur de chacun. Et en ce temps de pandémie, en particulier dans celui de nos dirigeants, que leur souci premier soit l'intérêt des humains dans tout ce qu'ils sont. C'est avec confiance que nous t'adressons nos prières, sachant que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Amen. Nous aurons l'occasion aussi de présenter nos offrandes et à l'image du peuple et de David, nous sommes invités à nous réjouir des dons que nous faisons pour le service de Dieu. Donc il est dit dans le livre des Chroniques, « Le peuple se réjouit de ses dons volontaires, car c'était d'un cœur sans partage qu'il les avait faits à l'Éternel. Le roi David en éprouvait lui aussi une grande joie. David loua l'Éternel devant toute l'assemblée en disant, « Qui donc suis-je et qui donc est mon peuple ?» Pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons, tout cela vient de toi. Et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Donnons avec joie. Et vous pouvez le faire à la fin du culte dans la boîte qui est présente ou alors en ligne ou par virement. Quelques annonces pour cette semaine sur la vie de notre Église. C'est la semaine des groupes de maison. Donc nous n'avons pas encore l'occasion de nous réunir en présentiel, mais différents moyens sont mis pour le faire à distance. Donc, soyons présents dans ces moments de vie de notre Église. Il y a une journée de travaux samedi prochain, le 19 décembre, comme il y en aura une aussi le 2 janvier, et puis la préparation de l'ouverture de notre bâtiment les samedis qui suivent. Le formulaire d'inscription va partir. Il y a plein de petites choses à faire encore pour les grands bricoleurs, pour les moins grands bricoleurs. Il y a la cuisine aussi à faire. Donc, vraiment, faites bon accueil à ce mail et inscrivez-vous pour pouvoir venir partager notre premier culte qui aura lieu le 24 janvier dans ce local. Et voilà, nous avons besoin de terminer tout cela avant. Et il y aura aussi un Donc il y a le culte dimanche prochain à 16h ici même. Il y aura aussi un culte de Noël le 25 à 10h30 ici. Il faudra alors s'inscrire, mais voilà, si vous êtes là, prévoyez déjà de venir vivre ce moment ici ensemble. Alors nous approchons de la fin de notre culte et je vous rappelle quelques consignes avant de nous séparer. Nous sortons de ce côté-là. Les parents qui ont des jeunes enfants à la crèche sont invités à les récupérer par l'extérieur et rapidement. Voilà. Frères, soyez dans la joie, priez sans relâche et rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à chacun. Non, un bon dimanche, une bonne soirée et une bonne semaine à chacun.